Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Avec les mecs, ça a commencé pas très très bien. La première expérience sexuelle avec un garçon, c'était plutôt un échec. On s'est retrouvés dans une maison un soir où il y avait tous les gens qui faisaient la fête en bas, quoi. Et je l'ai un peu littéralement traîné en haut, à l'étage, pour me dire « Bon allez, maintenant c'est bon, on y va, c'est le moment ». Je me souviens vaguement que j'ai essayé de le sucer, je crois, et le mec, il était là, il bandait pas. Enfin, je l'avais vraiment traîné en haut, et je pense qu'il savait pas trop ce qu'il foutait là. Et il a fini par me dire, bon, bah, écoute, c'est un peu nul, je redescends. Et moi, je suis redescendue vraiment le walk of shame en bas, en me disant, putain, premier essai, vraiment gros échec. Et du coup, voilà. Le second, c'était beaucoup plus mignon. C'était un garçon avec qui je sortais depuis un mois, qui était très amoureux de moi. Moi, pas du tout. Honnêtement, mais j'avais beaucoup d'affection pour lui. Et je me rends compte avec du recul, même si je le verbalisais pas comme ça à l'époque, que je voulais vraiment, pour le coup, l'utiliser, c'est pas le bon mot, mais je voulais que ce soit un peu lui, ma première fois, et je sais que je restais avec lui un peu dans cette optique-là, parce que je savais qu'il était très gentil avec moi, qu'il me respectait, et que du coup, c'était un peu la bonne opportunité pour faire ça dans des bonnes conditions. Donc du coup, je suis restée un mois avec lui. Au bout d'un mois, je lui ai dit « Bon bah, on y va quoi, on se lance ». C'était sa première fois à lui aussi. Et c'était, bon bah, comme je pense toutes les premières fois, un peu nul à chier. Enfin, ça a duré 2 minutes 30, c'était un peu nul. Et je me souviens m'être dit, après tant d'années à un peu fantasmer ce moment, en me disant « Mais voilà, ça va être incroyable, enfin, je vais découvrir le sexe quoi, tout le monde en parle tout le temps, ça a l'air incroyable, enfin voilà ». Je me souviens m'être dit, mais tout ça pour ça, mais quelle tristesse, quoi. Ça fait des années que j'ai cette espèce de projet dans ma tête, et en fait, c'est nul, quoi. Et ça a été vraiment très décevant. Très, très décevant.
Et t'es restée longtemps après avec ce mec ?
Je l'ai largué une semaine après. Genre, j'ai vu que c'était pas possible. Et ça a été, avec du recul, je l'aurais vraiment fait différemment. Parce que le pauvre, enfin, il méritait pas ça du tout, je pense. Mais moi, j'étais vraiment un peu obsédée par mon objectif, je pense, qui était vraiment de découvrir ce que c'est l'intimité, quoi, avec quelqu'un d'autre.
Chloé a aujourd'hui 25 ans. Il y a quelques semaines, elle m'a parlé de son adolescence à enchaîner les mecs sans vraiment se poser de questions. Elle était jugée avec mépris par ses camarades. Je me suis alors demandé, quelle vie avait vraiment celle que l'on percevait comme la salope du lycée ?
En termes de rythme, au lycée, j'ai commencé par, je pense, oui, deux, trois mecs à intervalles de, je sais pas, peut-être 3 semaines, 1 mois. Et après, ça s'est accéléré, il me semble. Enfin, ça a été assez régulier, genre un par mois, je pense. À chaque fois différent, parce qu'il voulait plus recoucher avec moi après, donc... Enfin bon, pas tous, c'est faux ce que je dis, non, il y en a plein avec qui j'ai couché pendant plus longtemps, mais c'était un peu la honte, quoi, fallait pas le dire, c'était un peu caché, c'était pas le truc qui balançait en soirée comme ça, quoi. Et il y a eu un été, il me semble que c'est l'été du coup de la première, où là, oui, j'ai peut-être dû coucher avec 6-7 mecs différents, je pense, j'ai pas trop les chiffres en tête, mais ça devait être ça. Et en gros, sur toute la durée du lycée, j'ai dû coucher, je pense, avec une grosse quinzaine de mecs, je pense, quelque chose comme ça. Donc, avec du recul, je me dis, mais mon Dieu, mais 15, c'est rien. Genre, par rapport à mon score d'aujourd'hui, vraiment, on est sur du niveau débutant, quoi. Mais sur le coup, c'était vraiment... Enfin, je me souviens très bien qu'on me regardait hyper différemment et que non, après, encore une fois, c'est une question de cadre aussi. Hein. C'est le petit lycée du sud de la France où tout le monde se connaît, où tout le monde se parle, où tout se raconte et puis où tout s'amplifie aussi. Hein. Peut-être que moi, je dis 15 et peut-être qu'eux, ils pensaient que c'était 30, quoi. Si je cherchais à coucher avec autant de mecs, bon déjà je le cherchais pas, pas tant que ça en soi, ça juste ça arrivait et dès que j'avais l'occasion j'y allais en fait. C'était que vraiment je cherchais je pense à fuir un petit peu tout ce qui se passait chez moi et à fuir le fait que j'étais objectivement pas aimée, pas considérée et qu'on me donnait pas d'attention dans mon environnement familial et du coup je pense que je recherchais énormément ça. Cette approbation-là ou ce désir-là dans les yeux des garçons avec qui je pouvais être. C'était en gros des problèmes de violence de la part de mon père, qui étaient dirigés donc contre moi et contre ma mère. Il était passablement alcoolique, on va dire, et du coup voilà, c'était un peu l'enfer chez moi de ce point de vue-là. C'était de la tension en fait. Je pense que c'était vraiment de la tension. C'était encore une fois pas du plaisir. C'était pas de... J'étais pas curieuse sexuellement en soi, c'était pas une question de tester des nouvelles pratiques, c'était vraiment de l'attention, je pense. On me donnait de l'attention en me témoignant du désir, mais mon problème et ce qui fait qu'à chaque fois, enfin ce qui faisait que ça tout dégringolait, tout s'écroulait à chaque fois, c'est qu'une fois que ce moment-là était passé, une fois que le sexe était passé, ben j'étais un peu dégagée comme une vieille merde, quoi. Et du coup, ça me faisait encore reperdre confiance en moi et j'allais rechercher ailleurs cette chose que je cherchais avec celui d'avant, ce qui n'est clairement pas une bonne stratégie. mais en tout cas, non, du coup, j'alternais entre les moments où, je me sentais un peu désirée et au centre d'un jeu de séduction qui me plaisait et les moments où je me disais, mais en fait, je suis qu'une grosse merde, les mecs se servent de moi, et après ils racontent ça à leurs potes, et je me sentais nulle, quoi. Et vraiment, j'alternais entre ces deux phases-là. Ça, je me suis pas dit, c'est fini, plus jamais. C'était juste pas possible, quoi. J'avais une espèce d'appel à l'amour, enfin à l'envie d'être aimée, parce qu'au fond, c'était ça, vraiment trop trop forte, quoi. On me ghostait pas, mais c'était plus une espèce... On s'adressait à moi après, avec une espèce de gêne un peu distante, tu vois. On continuait à me parler, il n'y avait pas de souci, mais je sentais que le regard de l'autre avait changé et que j'étais plus perçue pareil. Et ça m'a fait plus ou moins ça avec beaucoup, beaucoup de garçons avec qui j'ai pu coucher au lycée. Ce truc de... je me sentais un petit peu... Ouais, on me regardait avec des yeux un peu... Comme si j'avais été salie, quoi, clairement.
Mais salie par leur propre bite.
Ben, c'est un peu tout le paradoxe de... de tous ces garçons-là, c'est que oui, ils étaient bien d'accord pour coucher avec moi. Je les ai pas forcés, ils étaient bien contents, on était à deux, hein, mais c'est après que... C'est une fois que c'est fini que toutes les choses changent, quoi. Enfin, on sait bien tous les types d'injonctions qui peuvent se poser sur les corps des femmes en général, mais encore plus sur le corps des femmes jeunes, où il y a toute l'idée au lycée où qu'on doit se faire respecter, on est dans une espèce de jeu de séduction un peu mystérieux, mais qui se transpose jamais dans une vraie vie sexuelle ou une vraie libido assumée, parce que là, t'es une pute, quoi. Donc, je pense que oui, c'est clairement ça. C'est que une fois que c'était passé, ils assumaient pas d'être associés à une fille qui a une libido forte ou qui couche avec plein de mecs, enfin... J'ai réalisé que j'étais vue comme une salope, je pense, vers 16 ans, je crois, mes premières. J'avais un groupe d'amis à ce moment-là, et je pense que c'est des filles du groupe qui ont commencé à m'en parler, en me disant « Chloé, calme-toi, tout le monde dit que tu couches avec tout le monde », enfin voilà. Et là, je pense que c'est là que j'ai pris conscience que c'était pas juste une espèce de rumeur un peu flottante, enfin que c'était un peu une vraie réputation que j'avais, quoi. Et c'est à ce moment-là que je me souviens, en fait, on avait rencontré un groupe de garçons, et je suis tombée un peu folle amoureuse d'un des mecs du groupe, quoi. J'ai couché avec lui, et en gros, il m'avait plus ou moins quittée, un peu ghostée du jour au lendemain, sans aucune raison, quoi. Et moi, j'étais complètement folle de lui, et ça m'a brisé le cœur. Et en gros, j'ai appris, quelques temps après, qu'il m'avait quittée parce que ses potes lui avaient dit mais qu'en gros, ouais, j'étais une grosse pute, et que c'était dégradant de coucher avec moi, quoi, en gros. Et c'est justement ces mecs-là qui ont lancé le fameux surnom qui après s'est propagée un peu dans ces cercles-là. Et du coup, et c'est... j'en reviens pas que j'arrive à le dire aujourd'hui parce que ça a vraiment été douloureux pendant très longtemps, mais il m'appelait Kebab. C'est super dur à dire, franchement. Non mais je comprends, moi aussi j'ai envie de rigoler. Et en gros, la métaphore, c'était quand t'es bourré en soirée, t'es content de le manger, et le lendemain, t'as un peu la nausée ou un truc comme ça, bref. Et en gros, ça m'a poursuivi pendant des années, ça a été impossible à verbaliser. Et là, que je le dise aussi facilement, c'est assez ouf. Mais voilà, en gros, ce mec m'a quittée, ce mec dont j'étais folle amoureuse pour ça, pour ce surnom et ce truc horrible, tu vois, que ses potes ont propagé.
En plus, c'est bon les kebabs.
En plus, c'est bon les kebabs, donc allez tous vous faire foutre.
Et pourquoi t'as eu tant de mal à le verbaliser ?
Je pense que j'ai eu autant de mal à verbaliser vraiment spécifiquement ce surnom-là, parce que le reste, j'ai aucun mal à en parler, et puis je les emmerde. Au final, j'ai eu plein d'expériences, c'était cool avec du recul. C'était vraiment précisément ce mot-là parce que je pense qu'il renvoie à un imaginaire de, ouais, de quelque chose de sale, quoi, quelque chose de à l'inverse de ce que je voulais faire passer en fait comme image chez les mecs, un truc de séduction un peu pas mystérieuse, mais voilà, on sait tous comment on séduit un peu au lycée ou machin, enfin, on essaie d'être un peu distant, un peu comme ci, comme ça. Moi, j'arrivais pas du tout à faire ça et j'arrivais pas du tout à... Enfin, je plongeais toujours dans les bras des mecs sans aucune considération pour la manière dont ils me voyaient, etc. Et en fait, ce mot-là, il me renvoyait à ça, au fait que en fait, non, j'étais pas du tout la meuf un peu, comment dire, désirée, un peu mystérieuse. J'étais le contraire, en fait. Et ça, je pense que ça a été super douloureux pour ça, quoi. J'ai pas du tout envie de me dire... que je regrette tout ce que j'ai fait parce que c'est faux. Je me suis bien amusée avec du recul, même s'il y avait plein de problèmes. J'ai testé plein de choses, et j'étais juste curieuse en fait, et je peux pas regretter ma curiosité. Dans mon lycée, il y avait une autre fille un peu comme moi. Je viens de repenser à elle, tiens, c'est la première fois depuis des années. J'allais dire son nom si tu m'écoutes, mais non, je vais pas le dire. Mais non, pour le coup, c'était pareil que moi, et je pense qu'elle aussi l'a très très mal vécu. Alors c'était, là je me rends compte à quel point c'est grave, mais je me rends compte que cette fille-là, je la méprisais un peu au lycée, à cause de cette réputation. Enfin que du coup, je pense qu'elle me renvoyait à ce que j'étais moi, et du coup je prenais vachement mes distances avec elle, parce que ça m'était, je pense, mal à l'aise en fait. Et du coup, on était dans le même groupe, donc on était plus ou moins copines, quoi. Mais je sais qu'il y avait quelque chose qui profondément me mettait mal à l'aise chez elle. Et en fait, j'ai jamais repensé depuis, mais je pense que c'est vraiment ça, quoi. C'est que je voulais pas voir un peu dans ses yeux ce que les autres voyaient chez moi, enfin, tu vois, un peu un truc comme ça. Alors qu'elle était comme moi, en fait, elle était juste hyper curieuse et hyper libre. Et aujourd'hui, je la salue. Elle avait bien raison.
Tu penses qu'elle était aussi en recherche d'attention ou tu penses qu'elle était plus dans une démarche curieuse ?
Je pense qu'elle, pour le coup, elle était plus dans une démarche vraiment, ouais, plus sexuelle au final, dans le sens où elle était, je pense, plus expérimentée en termes de pratique, tout ça, et elle avait une approche plus de découverte, beaucoup plus axée pour le coup sur le désir et le plaisir que moi. Alors que moi, c'était vraiment le cadet de mes soucis, quoi.
Et toi, tu prenais pas de plaisir alors ?
Bah pendant très longtemps, ouais, j'ai pas pris de plaisir du tout. Je pense que j'ai commencé à en prendre, je sais pas, il y a peut-être 3 ans, 4 ans. Enfin, c'est vraiment très très récent. Et avant ça, non, j'en prenais pas parce que c'était pas ma recherche en fait. J'avais l'impression de pas être là pour ça. En fait, moi j'étais heureuse qu'on me donne de l'attention, d'avoir des câlins, d'être dans un truc d'intimité avec un garçon, quoi. Mais mon propre plaisir vraiment m'intéressait pas du tout, quoi. Vraiment. Mais j'ai mis des années à m'en rendre compte, hein, parce que sur le coup, moi, je pensais que c'était génial et que tout allait bien. C'est en découvrant d'autres choses aujourd'hui et pour le coup, en m'intéressant vraiment à ce que je veux, mon plaisir, ce qui peut m'exciter, ce qui peut, voilà, que je réalise qu'en fait, j'étais vraiment un peu sortie de mon corps, quoi. J'étais pas dans mon plaisir et dans mon désir, quoi. Pas du tout. Déjà, je pense que le fait d'avoir été aussi malmenée par les garçons au lycée, ça m'a créé une espèce d'énorme instinct de survie une fois que je suis partie du lycée en me disant maintenant plus personne se foutra de ma gueule, plus personne me traitera comme une merde, je vais rester qu'avec des mecs ultra gentils, ultra féministes, ultra respectueux. Et ça m'a vraiment créé une grosse grosse carapace de ce point de vue là, quoi. Donc en gros je choisissais littéralement mes mecs sur la base de Ils sont extrêmement, extrêmement gentils, super, super safe. Et c'était pratiquement mon seul critère, quoi. Donc, forcément, dans ce cadre-là, eh ben, tu restes avec des mecs qui vont prendre soin de toi, qui vont s'adapter à ton rythme, qui vont te mettre en confiance. Donc, ça change quand même beaucoup de choses dans ta perception de ton propre désir, etc. Qui vont être attentifs aussi à comment tu réagis. Enfin, voilà, quoi. Donc, ça aide beaucoup. Et puis plus récemment, je pense que vraiment ce qui a tout changé, en fait, c'est l'acceptation de mes désirs de soumission.
Et ça, du coup.
Ouais. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui a complètement changé toute ma sexualité. Et même si cette sexualité-là, elle allait beaucoup mieux en post-lycée, avec des garçons gentils, etc., etc., si je compare avec ce que j'ai aujourd'hui, par exemple... Clairement, c'était encore pas à la hauteur. Enfin, c'est bien, ça prouve que tout s'améliore avec le temps et qu'il y a une grosse progression. Enfin, c'est génial, mais pour le coup, là, j'ai vraiment l'impression de me découvrir et d'enfin savoir ce qui me fait plaisir et ce qui m'excite, ce qui me fait fantasmer depuis à peine quelques mois, quoi. C'est hyper, hyper récent. C'était très compliqué à accepter la soumission pour plein de choses. Déjà parce que chez moi, c'était la merde, qu'il y avait de la violence et que le fait de devoir... Enfin, le fait de fantasmer sur des situations ou des mises en scène qui mettaient en scène cette violence-là, c'était hyper compliqué. Je me disais, mais pourquoi je veux ça? C'est pas normal, j'ai un problème. Ça, c'est le premier levier, c'est le levier vraiment personnel, familial. Ensuite, il y a le levier, je me sens hyper féministe je suis pas une vraie féministe si j'ai ces désirs-là, ou en tout cas, ils entrent en contradiction avec une certaine vision que j'ai de la position des femmes dans la société, quoi. Et puis le dernier truc, ça a été aussi que pendant tellement longtemps, justement, je me suis tellement mis des barrières en me disant il faut que je reste qu'avec des garçons très gentils, sinon en gros je vais me faire niquer, quoi, dans tous les sens du terme, que je me laissais pas aller aussi, je pense, vers des garçons qui pouvaient être un peu dominateurs ou un peu machin, parce que je le voyais comme un danger et tous mes warnings se mettaient en rouge, quoi. Et donc, il y a vraiment tout qui faisait que je me laissais pas du tout aller à penser et à essayer de réfléchir sur ces désirs-là. Donc, c'est vraiment très récent. Quand je me suis enfin dit, en fait, ce moment où je me suis dit, mais en fait, le fait que je désire ça, que j'ai des fantasmes de brutalité ou de violence, en fait, ça ne remet absolument pas en question à la personne que je suis et ce en quoi je crois dans ma vie quotidienne, enfin ma vie civile, quoi. C'est deux choses différentes. Et le jour où j'ai vraiment compris que le sexe, c'était rigolo, en fait, que c'était une mise en scène, en fait, que c'était un jeu. Et ça, j'ai pendant des années, je n'y croyais pas du tout, parce que je prenais ça très, très au sérieux, quoi. Enfin, au lycée, j'utilisais le sexe tellement comme un outil pour remplir tous ces trous d'affection que j'avais, enfin, tous ces problèmes de manque de confiance et de chercher de l'amour ailleurs, etc., que je prenais ça énormément au sérieux, quoi. Et donc là, bizarrement, un peu paradoxalement, via ces fantasmes-là de brutalité ou de violence, eh ben c'est grâce à ça, en fait, que j'ai l'impression de toucher à une forme de légèreté et de liberté dans le sexe, quoi. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre de ce qu'on peut dire, de mon nombre de partenaires, de mes pratiques. Je suis complètement en paix avec ça, et j'ai limite envie de dire merci à tous ces gens qui m'ont fait vivre ça un peu avant, parce que je pense que ça m'a donné une espèce de rage de liberté, mais énorme, quoi. Genre vraiment, aller tout vous faire foutre, je fais ce que je veux, c'est mon corps, et peut-être que j'aurais pas eu ça à ce point-là sans eux aujourd'hui.
Oui. Bon, on va pas non plus leur dire merci. Hein.
C'est un merci un peu métaphorique, tu vois, avec un gros doigt en même temps, c'est pas un vrai merci, genre je vais pas les voir en leur disant « mon Dieu ». Mais je pense quand même que, de la même manière que mon enfance ultra violente m'a permis aujourd'hui d'être, je sais pas, peut-être hyper féministe ou hyper progressiste, hyper impliquée dans des luttes sociales, etc. Bah, peut-être que justement ces gens-là, en parallèle, ils m'ont permis aussi d'avoir une vision de la sexualité beaucoup plus libre, parce que j'ai dû verbaliser mon « allez vous faire foutre ».
Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez m'aider à grandir, le plus simple reste de mettre des 5 étoiles et de poster des commentaires sur iTunes. Vous pouvez par ailleurs m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram. Ils me font toujours très plaisir. ici Anouk Perry, et je vous embrasse.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.